Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver en ce 1er mai. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Nous sommes avec Patrick Lejaric, le directeur du journal L'Humanité. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis on va recevoir l'acteur François Berléand, nos indispensables de la cuisine facile à faire, peut-être même un peu trop. Une visite guidée dans les bibliothèques des personnalités confinées. Et il y en a qui se la pètent.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Patrick Lejaric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le directeur de la rédaction de L'Humanité, pour qui la fête du travail est un jour particulier, puisque les communistes vendent traditionnellement le muguet ce jour-là. Mais pas ce 1er mai. Comment vous vivez cela ?
Bah d'abord, c'est la journée internationale des travailleurs, pas tout à fait la fête du travail comme je l'entends dire depuis ce matin. Oui, c'est une difficulté, le fait qu'il n'y ait pas les rassemblements possibles, les manifestations, et évidemment la vente du muguet qui sont des moments de convivialité.
Alors dans votre journal, dans l'Humain, on apprend que les communistes vont vendre du muguet virtuel. Concrètement, ça va se passer comment, Patrick Lejaric ?
Ben, ils vont proposer des médaillons, ils vont proposer des visuels, et en échange de quoi ils feront contribuer aux caisses de leur parti.
Alors il n'y a pas de journaux aujourd'hui, évidemment, c'est la tradition ce 1er mai, jour de la fête des travailleurs, vous avez eu raison de le souligner. Dans l'Humain d'hier, vous annoncez un 1er mai sur la toile et au balcon, pluriel à balcon. Vous appelez les gens à manifester, mais de quelle manière ? Comment ça va se passer concrètement ?
Ben effectivement, grâce aux réseaux sociaux et aussi au balcon, c'est-à-dire on peut afficher.
On a perdu Patrick Lejaric. Est-ce qu'il est ici ? Je ne sais pas, j'explique aux auditeurs comment est-ce qu'on fait pendant qu'on le rappelle. On utilise une application qui est formidable quand elle fonctionne et parfois elle ne fonctionne pas. Donc nous parlions du défilé traditionnel du 1er mai qui avait évidemment été supprimé aujourd'hui pour cause de confinement et de lockdown, comme on dit chez les Anglais. Et il y aura les communistes qui vont vendre du muguet virtuel, pas de journée, et il y aura des manifestations sur la toile et au balcon. Je regarde et on me fait signe. Est-ce qu'on a retrouvé Patrick Lejaric ? Il est ici ? Non, on ne l'a pas retrouvé. Alors je veux dire ce qu'on va vous faire entendre. Je vais vous faire entendre mon coup de cœur musical. C'était une claque que j'ai prise ici avec un groupe qui s'appelle Vufpeck. C'est un groupe américain de funk et jazz. Ah, il est là, Patrick Lejaric est revenu. Vous êtes avec nous, Patrick, ça y est. C'est bon, on est content de vous entendre. Donc je demandais comment les gens vont-ils manifester ? De quelle manière ? On voit que le virtuel, ça ne marche pas toujours. Hein.
Non, ben ce n'est pas du tout la même chose. Évidemment que se retrouver physiquement, se parler, est évidemment bien mieux que
évidemment. Alors racontez-moi ce qui va se passer. Mieux. Il n'y aura pas de défilé traditionnel du 1er mai, mais le Parti communiste lance une manifestation numérique. Comment ça va se passer ? Bon, je crois qu'on a perdu Patrick Lejaric. On marque une toute petite pause, on le retrouve, et on va parler de cette manif du 1er mai dont on voit que les rouages sont encore agressés. A tout de suite sur Europe 1, agressé en deux mots évidemment.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Lejaric, qu'on est heureux d'avoir retrouvé, directeur de la rédaction de L'Humanité, pour qui la fête du travail est un jour particulier. C'est le jour où les communistes vendent le muguet. Certes, L'Humanité n'est plus le journal officiel du Parti communiste français, mais il est quand même très attaché. C'est désormais la baseline, c'est le journal fondé par Jean Jaurès. On reparlera de Jaurès. Alors, je parlais de cette manifestation virtuelle. Il y aura des mails massifs au président de la République à 10h et à 15h. C'est ça un peu l'idée, Patrick Lejaric ?
Oui, il faut lui dire un certain nombre de choses et qu'il les retienne. Il ne suffit pas de proclamer, comme il a fait il y a quelques jours, les jours heureux, en se référant à un beau programme, celui du Conseil national de la Résistance. Il faudrait créer les conditions, effectivement, de jours heureux, mais pour cela, il ne faut pas continuer à faire comme il a fait encore ce matin en valorisant le travail, mais il faut rémunérer le travail et créer les conditions que chacune et chacun ait un travail ou une formation.
Mais là, vous comprenez bien qu'on est dans une situation très, très, très délicate, puisque même la puissance publique finance le chômage partiel des gens qui habituellement travaillent dans le privé.
Oui, mais les grandes entreprises, elles continuent de donner des milliards et des milliards de dividendes en pleine crise. Par conséquent, la question de la répartition de l'argent et de l'utilisation autrement des fonds publics et du crédit, elle se pose. C'est un débat qu'il faut avoir. On ne peut pas avoir un débat seulement dans une direction. La Banque centrale, elle fabrique des billets à gogo en ce moment. Ces billets-là doivent servir évidemment au filet de sécurité, à la sécurité sociale et professionnelle des salariés, mais elle doit servir aussi à une réorientation de notre type de développement, une réorientation sociale et écologique.
Alors évidemment, Patrick Le Yarrick, vous n'étiez pas tendre avec le gouvernement au sujet de sa politique en général, au sujet de la réforme des retraites en particulier, mais là vous êtes encore moins tendre quant à la gestion de la crise par le gouvernement du coronavirus et du président. Vous accusez nos gouvernants de, je vous cite, poursuivre l'asphyxie de notre système de santé publique. C'est dans votre édito du 5 avril. Vous parliez carrément de haute trahison et de forfaiture. Qu'est-ce qui vous a fait employer des mots aussi forts?
Mais en pleine difficulté, en pleine crise sanitaire, il y a sans doute un directeur d'ARS qui a été plus bavard que les autres, celui de l'Est qui a été limogé depuis pour avoir prononcé ses propos, mais il ne faisait que répéter ce qui se dit dans les cercles confinés, c'est qu'on allait poursuivre la réforme hospitalière, poursuivre ce qui était engagé avant, alors que c'est le chemin exactement inverse qu'il faut prendre. Donc continuer ainsi et mettre en péril la vie des gens, la santé des gens, oui, pose un grave problème quand on est à la responsabilité de l'État.
Ouais. Et vous avez également beaucoup ironisé après la dernière allocution du président de la République, allocution dans laquelle il a tenté de se justifier au sujet des masques. Vous avez parlé d'enfumage, c'est peu dire qu'il ne vous a pas convaincu sur ce sujet-là.
Ben, tout le monde le constate. Tout le monde constate qu'on a fermé des entreprises qui fabriquaient des masques. On a d'abord laissé partir ces entreprises sous capitaux étrangers. Il y a une belle entreprise dans les Côtes d'Armor à Plaintel qu'on a laissé racheter par un groupe nord-américain, Honeywell Bull, et cette même entreprise s'est empressée de la fermer pour délocaliser la production en Asie. Donc on se trouve dans cette situation où on laisse partir nos productions, y compris des productions de biens d'intérêt généraux, des biens pour la santé, et on aboutit à ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout le monde sait bien aujourd'hui, c'est notoriété publique, que cette affaire des masques n'a servi qu'à cacher le fait qu'il n'y avait eu aucune prévision et qu'on avait détruit des millions de masques qui n'étaient plus adaptés, mais sans en produire.
Ouais. Vous regrettez la fin de Pif Gadget ?
Je regrette.
Je veux dire le sens de ma question. Je rappelle, c'est un hebdomadaire qui était édité par Vaillant, qui était très proche de l'UMA et du Parti communiste. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il y a un tweet que j'ai vu lundi qui m'a beaucoup amusé, qui disait « Si seulement Pif Gadget existait encore, on aurait tous un masque aujourd'hui ».
Non, on n'aurait pas tous un masque, parce qu'il faut 60 millions de masques plusieurs fois par semaine. Donc, vous voyez bien le niveau de la production. Ce n'est pas avec des tweets qu'on résout de tels problèmes. On résout de tels problèmes en préparant la production, en la planifiant vraisemblablement, en ayant des stocks suffisants. Mais évidemment, faire des stocks suffisants, c'est totalement contraire au système de la production en flux tendu et aux délocalisations.
Comment ça se passe? L'Humanité est un journal, à ce titre c'est une entreprise. Comment ça se passe pour vous en ce moment? Vous avez connu des difficultés, le mot est un petit peu faible, il y a un an et demi, deux ans. Comment ça se passe pour vous, pour l'UMA?
Ben, on est toujours en plan de continuation, un plan de continuation qui a été adopté au mois de décembre dernier par le tribunal de commerce de Bobigny. Nous étions en train de le mettre en œuvre. D'ailleurs, nous avions d'assez bons résultats l'an dernier et jusque le premier trimestre de cette année. Mais évidemment, depuis le mois de mars, nos recettes publicitaires s'effondrent. Nous vendons moins parce qu'il y a 5 à 6 000 aujourd'hui points de vente fermés. Et on a eu une petite chute des abonnements parce que la Poste n'a pas pu servir les abonnements en temps et en heure pendant plusieurs jours. Donc, on a créé un choc. D'autre part, nous avions une activité parce que l'Humanité n'est pas qu'un journal. L'Humanité est un groupe. Nous avions une activité pédagogique et de culture autour des voyages. Nous allons perdre beaucoup d'argent également. Donc, on va sans doute, dans ce semestre, perdre aux alentours de 1,5 million d'euros.
Ouais. Avant le confinement, vous vendiez aux alentours de 33 000 exemplaires par jour. C'est tombé à combien depuis le confinement, comme tous les autres d'ailleurs, évidemment, et malheureusement?
Ben, c'est-à-dire que nous n'avons pas baissé, si vous voulez, en vente. Nous vendons plus de 33 000 exemplaires. Vous parlez là du quotidien.
Oui.
Mais nous vendons également un magazine, L'Humanité Dimanche. Nous vendons des hors-séries. Nous vendons une revue qui s'appelle Travailler au futur. Si vous voulez, en quantité, nous n'avons pas baissé puisque nous avons fait à peu près 1 500 abonnements au mois de mars et nous venons, les chiffres que j'ai jusqu'au 26 avril, font que nous avons à nouveau réalisé 1 600 abonnements, mais c'est un prix à l'unité beaucoup plus bas, puisque nous développons l'abonnement numérique, et évidemment, il faut à peu près 4 abonnés numériques pour avoir la valeur d'un abonné papier. Donc on va avoir à peu près le même nombre de lectrices et de lecteurs, mais notre chiffre d'affaires, il chute beaucoup.
D'accord. J'ai remarqué que dans le journal d'hier, il y a une page « Faisons découvrir l'UMA en version numérique à 10 000 personnes ». Expliquez le principe.
Oui, nous proposons à un millier de lectrices et de lecteurs de l'Humanité de chercher autour d'elles et de 10 adresses avec le numéro de téléphone et l'adresse numérique. Et nous allons pendant un mois faire découvrir l'Humanité et l'Humanité Dimanche à 10 000 personnes nouvelles. Nous avons commencé là sur à peu près 1 000 adresses que nous avons reçues et nous obtenons de bons résultats.
Vous continuez à faire appel aux dons de vos lecteurs. Dans le numéro d'hier, il y a 3 pages pour les remercier. Département par département, avec leur nom, la somme qu'ils vous ont donnée, ça va de 20 euros à 2 000 euros. Il vous manque combien? Il manque toujours trop, mais il vous manque combien en gros pour sortir la tête de l'eau, Patrick Le Yarrick?
Oh ben, nous allons être contraints d'ici l'été, il faudrait retrouver 1 million d'euros en dons et en souscriptions, mais depuis que nous avons lancé la souscription dont vous parlez là, nous avons collecté 360 000 euros déjà. Par conséquent, on va combler une partie de nos pertes grâce à l'engagement des lectrices, des lecteurs, d'amis de l'humanité, de gens qui, au nom du pluralisme, font des dons. Et ceci comble une partie de nos difficultés, mais évidemment, ce ne sera pas suffisant.
Vous avez également réussi à combler une partie de votre retard sur vos concurrents, à savoir vous tourner vers le numérique. Vous avez investi 1 million pour créer une plateforme de presse alternative. C'est quoi une plateforme de presse alternative?
Une plateforme de presse, c'est l'ensemble de ce que nous sommes, c'est-à-dire un quotidien, l'Humanité, un magazine, l'Humanité Dimanche, une plateforme numérique, l'Humanité.fr. Nous sommes en train de développer une activité nouvelle autour du travail, avec une revue et une plateforme qui s'appelle Travailler en futur. Donc, nous faisons là de la production écrite, de la production audio et de la production audiovisuelle, vidéo, comme le font d'ailleurs nos confrères. Et donc, l'ensemble de ceci, plus les activités de débat, de production de hors-série et les activités de la fête de l'humanité, constituent une plateforme à la fois d'information, de culture et de débat.
On a regardé ce matin les chiffres, vous avez quand même, c'est pas rien l'Humanité et le groupe L'Humanité, 770 000 abonnés sur Facebook, 380 000 sur Twitter et 30 000 sur Instagram, puisque vous en parlez, la fête de l'UMA, elle aura bien lieu à la Courneuve à la rentrée? De ce que vous savez.
Nous travaillons pour qu'elle ait lieu. Nous sommes en contact avec les autorités sanitaires et les autorités gouvernementales. Le fait qu'on fasse le tour de France nous donne évidemment un peu d'espoir. Nous sommes en train de travailler un modèle de fête qui ne sera pas, il ne peut pas être tout à fait la fête de l'an passé. Par exemple, nous avons un immense village qu'on appelle du monde de solidarité internationale. Évidemment, nous ne pourrons pas le tenir. Il y a d'autres activités que nous ne pourrons pas faire, mais nous souhaitons créer les conditions pour que les gens se retrouvent, débattent, rient, communient ensemble, se cultivent ensemble.
Rient, j'aime bien entendre ce mot. Beaucoup moins riant, un mot de la crise après Stalys qui n'en finit pas de faire des vagues. C'est le principal distributeur de la presse en France. Il distribue 75% de la presse. Prestalis s'est déclaré il y a bientôt 2 semaines en cessation de paiement. Au sein même de l'organisme, il y a 2 visions qui s'opposent. La coopérative des magazines et celle des quotidiens dont vous faites partie. Et vous, ma question est simple, que préconisez-vous pour sauver Prestalis ?
Alors, moi, je suis un petit peu différent de ce qui se dit. Moi, je supplie les quotidiens et les magazines de s'entendre, c'est-à-dire qu'on fasse ensemble, à partir des savoir-faire, à partir de l'histoire de Prestalis et du modèle coopératif de Prestalis, qu'on fasse une seule messagerie. Ça, il faut arrêter les disputes et ne pas laisser les éditeurs indépendants et les petits éditeurs de côté, parce que vous savez que dans cette affaire, les journaux qui sont adossés à des grands groupes industriels ou financiers, ils vont s'en sortir.
Ouais.
Mais les journaux indépendants, les journaux autonomes, la presse régionale même qui a parfois un statut familial ou un statut associatif, elle peut tomber. Donc ça, c'est la première chose. Seconde chose, il faut créer à partir de cela une nouvelle messagerie avec une recapitalisation différente. C'est qu'il faut la participation de l'État, mais il faut adjoindre des savoir-faire, notamment dans la logistique et la distribution. Ça pourrait être la Poste et Géodis qui pourraient être dans le capital de Prestalis. Et moi, je pense qu'il faut peut-être ouvrir le capital un peu aussi aux salariés, peut-être même aux associations de lecteurs de nos journaux qui, là, se retrouveraient et auraient une activité dans la distribution, ce qu'ils n'avaient pas jusque-là.
Ouais.
Et sans doute, cette nouvelle
messagerie... D'un mot, hein, Patrick Lujaric.
Oui, devrait faire de la distribution physique, mais pourquoi on ne s'engage pas à côté de la presse papier pour Prestalis à créer un kiosque numérique au lieu de laisser les grands géants du numérique nord-américains notamment posséder à la fois les contenus et
posséder. Alors là, c'est un vaste débat parce que si vous faites rentrer Google là-dedans, à faire rentrer la CGT du livre, on n'est pas sorti. Merci beaucoup Patrick Lujaric, on était ravis de vous entendre ce matin, vous êtes le directeur de la rédaction de l'Humanité, pour qui le 1er mai est un jour particulier, et pour nous aussi. Merci d'avoir été en direct avec nous, Patrick Lujaric.